bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale pour finir en beauté cette semaine.
Ah oui.
Avec Leïla Kadouboudadi, Daniel Morin,
chez vous.
Albert Algou, Jérémy Corville,
bonjour.
Frédéric Siglitz,
bonjour.
Tanguy Pastureau et notre invité Monsieur Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis, merci de venir à ce micro pour... Oh, c'est quoi? C'est un coup de gueule, c'est un manifeste? Oser l'autonomie.
C'est l'encouragement. C'est l'encouragement parce qu'on a des capacités... On ne les met pas souvent à l'œuvre. On a des potentiels de pouvoir être autonome dans beaucoup de choses.
Ah, ça.
Et donc, c'est ça, c'est un rappel.
Alors, c'est l'autonomie dans tous les sens du terme. Ce n'est pas une autonomie forcément écolo. Elle peut être aussi personnelle, elle peut être mentale.
Oui.
Elle peut être physique, biologique.
Ouais. Biologique, regardez ce que font les yogis. Vous savez, en médecine, moi j'ai fait médecine, donc on apprenait le système nerveux volontaire, celui qui fait qu'on fait les choses. Et puis on appelle ça le système nerveux neuro-végétatif. Ça veut dire qu'on ne s'en occupe pas. Et en fait, on a des capacités, sur notre capacité à réguler le rythme cardiaque, nos émotions.
Et vous donnez
un exemple,
dans
les apnéistes. Hein, les apnéistes, vous donnez quand même un exemple.
Les apnéistes, donc on a un contrôle sur le système neuro-végétatif. Voilà.
Oh ouais, mais alors, il y a un truc, comme dit Leïla, il y a un truc aussi expliqué dans le livre, mais je ne le crois pas deux secondes.
De quoi?
Votre température corporelle qui descend.
Non, 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 de décider d'envoyer le sang dans les doigts.
Allez, oui, le bout des doigts. Aussi.
C'est parce que tu n'as pas de volonté.
Non, c'est fascinant.
J'arrive à envoyer le sang où je veux.
Alors, c'est vrai.
On parle de. Voilà.
Ben, c'est le même principe, c'est la vasodilatation.
Sauf qu'il n'est pas du tout capable de l'envoyer où il veut.
Parce que tu ne motives pas.
Quand on fait. Ceux qui font de la moto le savent bien, il y a des moments où on se retrouve, on a la moitié du doigt totalement blanche et on ne peut pas dire je décide d'envoyer du sang ou pas. Non.
Bah, si, un peu.
Bah, non.
Oh là là. Non, j'ai fait ça à McGill University au Canada et donc ça a duré une semaine l'entraînement et tout le monde peut le faire. Ça consiste, si vous voulez, à vous visualiser que tout d'un coup, vous avez un flux sanguin. Je ne sais pas, vous imaginez sur la plage au chaud. Chacun fait sa visualisation, un peu comme un yogi, si vous voulez. Et puis, vous sentez que ça marche. En plus, vous avez des thermomètres au bout qui vous disent, tiens, ça monte. Et j'ai fait après une
donc
semaine
de test. Donc, vous
décidez,
vous vous dites, je veux que mon sang aille.
Nagui, vous allez y arriver.
Au bout de mes aille au bout de mes doigts.
Il faut...
Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il faut regarder
Vous faites ce que vous voulez.
Qu'est-ce qui aide?
Non, il y a des thermomètres au bout, si vous voulez. Vous pouvez fermer les yeux.
Il y a même des capteurs qui font des bips.
Si vous fermez les yeux.
Mais ça peut être bien, ça, pour
ça
tricher.
Ça s'appelle de la thérapie comportementaliste. Ça n'a rien d'exceptionnel, ça existe. Et puis après, au bout d'une semaine, on m'a mis dans un congélateur, dans les sous-sols de l'université, il faisait moins 18, pendant pas longtemps. Et donc, les mains nues, avec des capteurs thermiques. Et on se rend compte, bien sûr, que les mains se refroidissent.
Ouais.
Et à un moment donné, il me dit de l'extérieur, reprenez le contrôle, parce que la température descendait. Et c'est vrai que j'ai remis en œuvre ma pensée, si vous voulez, sur mes extrémités, et c'est remonté. C'est intéressant pour ceux qui ont la maladie de Raynaud.
Oui.
Ce sont des gens qui, tout d'un coup, les doigts qui deviennent tout blancs.
Violet, blanc. Ouais.
Ils ont des bons résultats sur ces choses-là.
On va en parler. En tout cas, oser l'autonomie, c'est passionnant.
C'est alors,
question concernant Jean-Louis Etienne. Pour quelle occasion Jean-Louis s'est enfin décidé à acheter une télévision à 40 ans?
Pour la lune. Voir.
Non.
Pour un match de foot?
Non.
Pour un anniversaire?
Non.
C'est pas un événement sportif?
Non.
Pour voir un film en particulier?
Oui.
Ah, pour voir ses aventures
2001.
À lui?
Non. Son... Bah, arrêtez de faire des signes, Jean-Louis.
Non, mais je.
Bah, un volcan, une éruption?
Ah, bon, d'accord.
C'est bien mimé.
Une éruption,
bon, enfin,
pardon.
Mais non,
Jean-Louis. Encore du sang qui afflue dans la toux, c'est ça?
Oui, non.
C'est
l'homéostasie.
Vous vouliez voir des documentaires d'Haroun Taziev?
Oui, Haroun Taziev. J'aimais beaucoup Haroun Taziev et j'aimais les volcans, j'aimais cette puissance-là. Et j'ai vu qu'il y avait une série à la télévision sur Haroun Taziev. J'ai dit tiens,
donc c'est pas le...
c'est le moment de l'acheter.
Parce que la majorité des Français des années 60-70, fin des années 60, ont acheté la télévision pour le premier pas sur la Lune.
Oui.
Après en 70, c'était la Coupe du Monde, il fallait voir Pelé jouer la Coupe du Monde. Tout ça, ça vous faisait rien.
Non.
Mais Haroun Taziev, oui.
Oui. Oui, c'était, ça a été une idole à Rontazien. J'aime beaucoup sa gouaille, j'aime beaucoup son engagement.
Les fumerolles.
Vous auriez pu juste aller chez des amis voir le documentaire, pas forcément acheter la télé. Parce que là,
problème, c'était l'occasion.
Vous avez fait ça pour n'oublier pas votre
l'occasion. J'aimais aussi les matchs de rugby, des choses comme ça. Il y avait des.
Non, il y en a qui
voilà,
okay, c'était le Netflix de l'époque.
Quoi. C'est ça. À chaque fois qu'on lui demande pourquoi il repart, il dit, Jean-Louis Etienne, invariablement, ça doit bien.
Continuer.
Non.
Ça doit bien.
Mener un verbe,
quelque
part.
Chose.
Ça doit bien.
Ça mener doit bien finir un jour.
Quelque chose
quelque
à la fin.
Chose.
Ça doit bien. T'attaque quelque chose.
Ça doit bien.
Je pars parce que ça doit bien.
M'apporter servir. Quelque chose.
M'apporter servir quelque chose. Chose. Non, servir
non,
à quelque chose.
Ça
non.
Doit bien.
Occuper.
Non.
Ça doit bien. Manger.
Je repars. Ça doit bien.
Ça veut dire quelque chose. Ça veut bien dire quelque chose.
Ça doit bien.
Arriver.
Non. Expliquer non. Quelque chose.
Non. Ouais, mais c'est plus précis que ça.
Un verre du premier groupe.
C'est un verre du premier groupe.
Ça doit bien signifier quelque chose. Je pars.
Ça veut dire manger quelque chose.
Non.
Allez.
Je pars, mais ça doit
je pas.
Ça
doit
donner quelque part.
Si je fais ça, c'est chose. Que ça doit bien.
Volcaniser.
Non.
Non. Arunta
TV. Servir à
quelque.
Non.
Oui, mais servir à quelque
premier
chose.
Premier groupe.
Mais... Non. Premier groupe, on a dit.
Premier groupe.
Voilà, cette tension.
Ouais. C'est à la fois physique. Ça peut être à la fois physique, psychologique, respirer. Philosophique.
Transgresser.
Non.
Physique, psychologie.
Grandir, non. Élevé.
Ah, ils ont pas trouvé.
Aider
j'adore.
Quelque chose.
Ah, je suis
non,
tellement content.
Non, c'est pas ça. Hein. Il me fatigue ce jeu vraiment.
Non.
Ça doit.
Ça marche pas non plus.
Ça doit bien sauver, soigner, pardon, soigner.
Soigner
quelque chose.
Soigner.
C'est qu'il y a une, c'est qu'il y a une attente, il y a un besoin.
Non, mais quand on soigne, c'est plutôt une blessure, c'est plutôt une fissure, une fêlure, un problème.
Une craquelure.
Pas... Oui.
Toi-même. Oui, si on va plus loin, effectivement.
Mais quelle serait cette blessure, alors?
Moi, j'étais. Oh, c'est pas forcément une blessure, mais
tu veux parler, Jean-Louis?
Hein?
Tu veux parler, Jean-Louis?
Moi, j'étais extrêmement timide, et ces engagements, en fait, m'ont donné de la force, vous voyez. Les premiers engagements, c'était monter dans les arbres. Moi, j'habitais à la campagne. Et au mois de mai, arrivait la naissance des oiseaux dans les nids, des pies et des tourterelles des bois. Et monter dans un peuplier ou un arbre assez haut pour aller chercher la pie vers la mi-juin, par là, avant qu'elle s'envole. Voilà. Et la nature a été...
Vous lui faisiez quoi, cette pie?
Vous bouffez, je l'apprivoisais.
Ah.
Et mais je vous le conseille. C'est génial, une pie apprivoisée, elle vous suit partout.
Et comment on fait pour apprivoiser une pie?
Elle recharge vos affaires quand vous les perdez. Il faut la prendre petite au nid avant qu'elle s'envole. Et bon, on la garde en cage pendant un moment, puis petit à petit, elle vous connaît.
Papa, tout ça.
On ne peut pas la laisser tranquille non plus, la pie?
Si, on peut la laisser tranquille, mais vous la laissez tranquille, elle vous suit. Vous n'êtes pas obligé, elle n'est pas en cage, elle est avec vous. Quoi. Enfin, j'étais petit. Et, non, et quand je dis soigner quelque chose, ça m'a apporté de la confiance. C'est ce dont souvent on manque le plus. Mettre en œuvre son audace, il faut mettre en œuvre son audace, c'est ça qui est intéressant, il ne faut pas se contenter d'être petit, hein. Surtout je suis né petit et je peux rester petit.
Oh, y en a d'autres.
Avec l'homéostasie, ça peut s'arranger. Hein.
J'aime bien l'homéostasie, ça te plaît ça
l'homéostasie? Ah ouais, ça me fascine.
L'homéostasie, c'est l'équilibre général du corps. Vous voyez, depuis tout à l'heure, là, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous voient, on a le cœur qui bat, on respire, la glycémie se régule, il y a des ovocytes qui sont en train de naître, les spermatozoïdes qui s'agitent, vous voyez.
Ça n'arrête pas.
On
s'occupe, bien, vous
on s'occupe de rien. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. On s'occupe de rien, ça marche tout seul. C'est ça le cerveau.
C'est ce qu'on fait de mieux.
Oui, non, mais attendez. C'est ça l'homéostasie, c'est l'équilibre général.
C'est ce qu'on fait de mieux. Et vous dites, il faut justement décider, maîtriser un peu tout ça. Le corps est une belle machine.
Oh, magnifique. Ouais.
Mais vous dites, il faut quand même intervenir dedans, quoi. Il ne faut pas forcément tout
laisser faire. Par exemple, quand on est extrêmement émotif, quand tout d'un coup la moindre émotion, c'est quelque chose qui vous met à battre le cœur, qui vous fait transpirer, qui vous met mal.
On rougit,
transpire. On peut tout à fait arriver par davantage de maîtrise, ça peut être de la méditation. Moi, je vois...
Le yoga, beaucoup.
C'est l'autosuggestion, en fait, c'est
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Et c'est pas technique, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est simplement penser, à un moment donné, à son propre fonctionnement, s'apaiser. C'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre.
Pourquoi Jean-Louis Etienne a dû arrêter? Il parlait du rugby, de sa passion pour le rugby. Pourquoi a-t-il été obligé d'arrêter le rugby? Pourtant, il adorait
blessure,
ça.
Non.
Blessé.
Non, pas de blessure.
Les troisièmes mi-temps.
Justement, parce qu'il voulait pas blesser les professionnalisés.
C'est pas une blessure, mais c'est un problème de confort personnel, oui.
Ah ouais, ouais.
Parce qu'il
en avait
pas...
marre d'aller chercher ses genoux à la fin du match.
À cause du protège-dents.
Non.
Parce que c'était risqué pour son métier, pour sa pratique. Non.
Confort personnel.
Oui.
Il était trop petit par rapport aux.
Non,
c'est
un
confort personnel. Physiquement, problème personnel.
Il y avait des semelles.
C'est bon ça. Ah c'est génial. Super. J'adore.
C'est quoi, c'est par rapport au choc?
Il y avait les pifs là.
C'est par rapport à la douche?
Non.
Le casque, le protège-gueule.
Alors, ça a rapport avec la tête.
Ah, c'est les oreilles. Il avait pas envie d'avoir les oreilles en chou-fleur?
Non, non.
Le nez, il s'est cassé le nez.
Non.
Les arcades.
C'était pas une première ligne, Jean-Louis Etienne, je pense.
Jean-Louis.
Non, 2000.
Tu même, t'avais peut-être des camarades
qui m'ont ordillé.
Je suis pas dans le jugement. Il devait porter des lunettes.
Problème d'audition à terme.
Un trouble qui venait à la fin de chaque match de rugby.
Il vomissait interne.
Non.
Il vomissait quand il était content quand...
Non.
Il vomissait dans son protège-dents, il s'étouffait.
Il s'endormait pendant les matchs.
Non, on l'a pas trouvé.
Il avait des maux de tête terribles. Oui, exactement. Exactement.
J'avais des migraines ophtalmiques.
C'est terrible, une migraine ophtalmique. Mais quel rapport avec le rugby?
À la fin du match. C'est peut-être l'effort, la transpiration. On n'a pas trouvé autre chose de dire il faut qu'il s'arrête.
Et l'autosuggestion, ça marchait pas là de
dire, je
maîtrise mes migraines.
Par contre,
ça a été une frustration colossale. J'ai adoré ce sport. J'ai des demi de mêlée au Castres Olympique. J'adorais ce sport. J'ai dû arrêter.
En plus.
C'était une grosse frustration.
Et jouer les yeux fermés, ça vous avait pas aidé. Ah oui, c'est important.
C'est ce qu'a fait l'équipe de France là au dernier tournoi de destination.
Ils ont pas de migraines.
Non, ils ont pas mal à tête.
Ils sont bien. Nulle part d'ailleurs.
Au début des années 80, Jean-Louis Etienne a failli changer de voie, changer de vie pour devenir
un aigu.
Aller au bout d'un rêve.
Nutritionniste.
Pianiste de bar.
Non.
Il voulait parler comme ça?
Non.
Gogo danseur.
Musicien. Non, il est tourneur fraiseur.
Il a abandonné.
Manuel.
Un métier pour une passion, mais dingue.
Les oiseaux.
Il a pas abandonné ses
études. Il a abandonné médecine pour partir.
Plus que ornithologue.
Dresseur. Non.
Les animaux en général.
Trapéziste. Non.
Les hommes. Non. La planète. Alors, les astres.
Aventurier.
Astronaute.
Ouais, exactement.
Allez.
Ouais, Jérémy Crédville.
Enfin, une bonne réponse en une saison. Oui.
Partir dans les étoiles.
En 83, il y a 1983, il y a eu un appel à candidature pour les non-militaires, pour des civils.
Au Centre national d'études spatiales.
Oui. Et donc j'avais rempli, j'ai toujours le questionnaire. Et puis donc j'avais.
Ah, vous l'avez pas envoyé? Bah oui,
aussi. Non, mais je.
Il y a un moment, il suffit pas de remplir.
Il faut pas l'oublier de l'envoyer.
C'est comme l'enveloppe, il faut la poster à un moment.
Je l'avais envoyé. Et j'ai rencontré un jour, beaucoup plus tard après, j'avais pas été sélectionné, un ancien directeur du CNES. Et qui me dit, vous étiez numéro 9, on en a pris 8. Il vous a manqué une chose, c'est d'avoir fait une publication scientifique. Moi, j'avais défendu un truc, j'avais fait, il faut faire une lettre de motivation pour aller dans l'espace. J'avais dit, écoutez, dans l'espace, on n'en voit que des robots humains, en fait, qui refont des choses qu'ils ont apprises au sol. Moi, je suis super campeur, super bricoleur. Et donc, je peux être utile là-haut, beaucoup plus, si vous voulez. Voilà. Et donc, j'avais fait un argumentaire comme ça. Et puis, il y avait, quels ont été vos employés? Mes employés, ça a été le père Joën, ça a été Tabarly, ça a été Alain Colas. Donc, c'était très exotique.
Ouais.
Mais j'avais manifesté mon envie de faire ça. Et donc, je n'étais pas pris. C'était Claudie Agnoret qui avait été prise et qui a voulu. Si on était pris, ça ne veut pas dire qu'on allait voler. Parce qu'après, il y a des tests, c'est quand même contraignant. Hein. Donc, je n'ai pas volé.
Restons dans
mais
les...
je me dis une chose, vous voyez, ils ne vont pas loin.
Comment ça, ils vont pas
soit à 400 bornes, c'est là-bas. C'est ça que je me dis pour
vous savez, Jean-Luc, dans ce sens-là, ça fait loin quand même, vers le haut.
Oui, 400 kilomètres.
Ouais,
oui. Restons dans les rêves. Jean-Louis Etienne rêve de rencontrer une personne.
Elle est vivante?
Oui.
Le pape?
Non. Mais.
Français, étranger,
féminine?
Non.
Étranger?
Le Dalai Lama?
Oui.
Ah, je l'ai dit.
Pardon.
Le Dalai Lama.
Ex aequo.
Absolument. Ex aequo, donc c'est pour Leïla.
Je t'aime.
Mais ça,
c'est plus caché maintenant.
Jean-Louis Etienne, c'est pas compliqué pour vous de rencontrer le Dalai Lama?
Oui, mais je dirais que c'est une. Bon, pour rencontrer le Dalai Lama, c'est sûr qu'il rencontre plein de personnes. On peut organiser ça. Je lui serrai la main. Bonjour, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Au revoir. Non, il ne rencontre beaucoup plus, mais ça n'existera jamais.
Ah, vous êtes amoureux, quoi. Vous voulez partir au week-end avec
non, alors vous
et
avez
faire
dit,
un canin,
si je peux me permettre, vous avez dit, j'aimerais qu'il s'intéresse à moi.
Oui, au sens où on est des êtres humains lambda, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est le parcours qu'il a fait. Comment est-ce qu'à un moment donné, on peut se rejoindre sur un parcours par rapport au sien? Entrer en communication avec le chemin qu'il a fait. Il a fait son chemin, si
oui,
vous voulez.
Oui, vous voulez le pécho, quoi. Hein oui, vous voulez le pécho, on a compris.
Non, ça, tu respectes rien, toi.
Mais moi, c'est pas ça.
Ça va au-delà de lire un livre avec son itinéraire personnel, parce qu'à la limite, ça, c'est possible de découvrir.
C'est un grandissement extraordinaire, qui est une invitation à grandir, parce que voyez, il y a un autre personnage comme ça qui m'a marqué, c'était le Père Jaouen, c'était une forme de Dalai Lama français, on va dire. Et le Père Jaouen, il avait cette capacité. Moi, j'ai été médecin avec lui sur le bateau qui s'appelle le Bel Espoir. Il y avait des toxicomanes et des sorties de prison, une clientèle pas facile.
Sympa la croisière.
Sympa la croisière. Et Jaouen, il avait cette force-là qui m'avait appris, derrière la carrosserie cabossée, il y a une petite lumière. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. Cette petite lumière qu'on peut aller. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est cette façon qu'a le Dalai Lama d'accepter de regarder le monde qui nous est. Nous, on le prend comme des épines, le monde, si vous voulez.
La petite lumière qui peut briller à l'intérieur, d'accord, elle peut être intéressante pour vous. Encore faut-il que la personne en question ait envie de l'alimenter, cette lumière.
Mais le rôle, c'est de réveiller, si vous voulez, de montrer. Et c'était le rôle des croisières qu'on faisait. On partait, on traversait l'Atlantique. Et alors, moi j'étais donc déjà interne en chirurgie, quand Jaouen m'a dit « venez comme médecin », donc j'ai amené une grosse pharmacie, deux caisses, et Jaouen c'est un espèce de colosse de Ouessant, il me dit « qu'est-ce que c'est ce truc-là » Je dis « c'est la pharmacie, un peu de chirurgie ». Il me dit « mais attends, est-ce que tu as des pilules ?» Je dis « pilules ?» Il me dit « ben oui », il me dit « attends, parce que là, bon, parmi la... ces gens qui étaient à bord, il y avait des garçons, des filles. Attends, il y a des garçons, il y a des filles. Il me dit, dès qu'on a passé les Canaries, ça va chauffer, ça va baiser, je veux pas d'emmerde. » Et je me suis retrouvé avec une énorme pharmacie. Ah ben
tu parles, il parlait surtout pour lui, le Père Jaouen. Il y a des filles, il y a des garçons.
C'était en 76, on ne parlait pas encore de...
Ah, de préservatif.
Si, non, si. On parlait... Oui, ça existait, bien sûr.
Ben oui.
Mais j'étais allé à la pharmacie du Havre acheter une caisse de pilules pour, effectivement... Contre c'est la seule chose qui me manquait dans cette pharmacie extraordinaire.
Vous avez surtout trouvé l'ordonnance pour pouvoir acheter une caisse de pilules.
Je me l'étais faite, j'étais médecin.
Ah, ben,
c'est honteux.
C'est comme Michel Simès qui fait tes ordonnances.
C'est honteux, ouais, je sais, c'est honteux.
C'est honteux, hein.
D'ailleurs.
Oser l'autonomie. Alors, tout ce que vous dites, aussi étrange que cela puisse paraître, est dans le partage, dans l'écoute de l'autre, dans aller chercher la lumière qu'il y a chez l'autre, dans derrière la carrosserie cabossée. On a le sentiment que vous voulez rencontrer les autres qui s'intéressent à vous, vous intéressez à leur parcours et inversement. Et là, vous dites, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, faites-le sans les autres. C'est un peu paradoxal.
Et non, c'est pas faites-le sans les autres. Bah, soyez autonome personnellement. Je veux dire, pour apporter quelque chose aux autres, plus on est fort dans ses convictions, plus on est fort dans son autonomie, je dirais.
Oui, mais plus vous êtes autonome, par exemple, pour vos...
Mais ça veut pas dire isolé.
Non, mais ça veut dire déjà, pardon, vous faites vos tomates, vos carottes, vos endives, votre laitue. Vous allez pas l'acheter chez les maraîchers. Donc ceux qui en vivent de ce commerce-là, qu'est-ce que vous en faites?
Non, mais avant que tout le monde se fasse ses carottes et ses tomates...
Il y a de la marge.
Non, il y a de la marge. Mais non,
quand même, si... Non, mais pardon, mais si tout... Je souhaite que tout le monde lise votre livre, et vous aussi, si tout le monde se met à le faire, comment notre société vit sur l'échange et sur le fait qu'on a besoin des autres. On vit en société, sinon chacun...
C'est se créer un petit moment de bonheur, vous voyez, faire pousser sans aller avoir des champs, parce que beaucoup de gens habitent en ville, la majorité d'ailleurs.
Mais même eux, ils plantent leurs tomates sur le
toit. Et avoir des tomates qui poussent...
Tomates cerises sur le balcon.
Mais ça peut t'amener à les partager aussi, tes tomates. Mais pas forcément une théorie,
si plus
une réflexion mercantile.
Mais ce qui m'intéresse, c'est en même temps de renouer avec cette émotion naturelle. Parce que quand vous commencez à... Ah merde, ça pousse. Vous voyez, sur le... Et puis vous les mangez après, il y a du c'est ce plaisir-là. Cette autonomie-là, je veux dire, autonomie émotionnelle, autonomie de satisfaction sur des petites choses.
Ah non, mais c'est évident. Tant qu'on n'a pas goûté une tomate de son jardin, que l'on vient de cueillir, qu'on passe à peine sous l'eau, que l'on coupe en deux avec du gros sel et l'huile d'olive, si on n'a jamais fait ça...
Qu'on mange à même le pied.
On va savoir le goût de la tomate.
C'est une invitation.
Je les plante chez moi.
Ça, c'est sûr. C'est une invitation.
Tout ce qui pousse chez moi, je le mange.
Et il y a autre chose qui m'intéresse, puisque moi j'ai un parcours qui était d'abord une formation professionnelle. Moi, je suis un ambassadeur de la formation professionnelle.
Un CAP d'ajusteur.
J'ai fait un CAP d'ajusteur, puis après, etc. Ce qui m'intéresse, vous savez, quand...
voilà, qui est bien raison.
Vous n'avez pas envie de finir une phrase, vous le faites.
Oui, c'est clair.
Et après, et etc. Après,
je fais médecine, j'ai oublié, etc.
Non, ce que... Et après, je suis là.
C'est une belle formule.
Ouais. Ce que je veux dire,
j'ai commencé, j'étais élève, et après, etc.
Je veux m'arrêter à ce moment de l'existence. Ouais. Je dis aux parents qui nous écoutent ou qui nous regardent, si vous avez un enfant qui est en troisième, qui n'a pas des bonnes notes, qui est déjà dans la spirale descendante, donc il a perdu confiance dans quelque chose, il faut entrer dans une formation professionnelle.
Et même s'il a des bonnes notes, Jean-Louis Etienne.
Ah, s'il a des bonnes notes, il continue.
Non, je suis désolé. S'il a de bonnes notes et qu'il a envie d'être ajusteur, fraiseur, faire un truc comme ça,
il faut pas l'arrêter.
Ah, ben voilà. Parce qu'en fait, on a une tendance à, c'est intéressant ce que vous dites dans le bouquin, dire à un moment, ok, il faut orienter éventuellement les jeunes gens si on sent que scolairement, ils peuvent pas aller au lycée général. Mais il faut, en disant comme ça, ça sous-tend que c'est ceux qui sont pas bons qui vont là.
Mais vous avez raison.
Alors que c'est une question de choix et de goût.
Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison, et je vais reprendre ce que je raconte en général dans des conférences où je m'adresse effectivement comme si c'était destiné à des enfants en difficulté. Je dis que c'est un parcours de retrouver de la confiance. Et je raconte toute la même histoire à côté de chez moi, c'est pas loin d'ici, il y avait un lycée professionnel, et après la rentrée, là en septembre, il sortait, donc je passais là, et il y en a un qui dit à l'autre, qu'est-ce que tu fais toi ? Il dit, moi je suis en pâtisserie, putain c'est génial. Et dans le putain c'est génial, j'ai compris qu'il avait retrouvé le bout de la pelote.
C'est ce que vous racontez dans le livre.
Ouais. Il avait repris le goût, et après le talent, l'ambition, le génie qui est ignoré, ressort.
Et d'ailleurs ce mouvement-là, on l'observe aussi avec des gens qui ont un bac plus 5, plus 6, qui arrêtent leur boulot aujourd'hui, qui reprennent une formation, qui prennent un métier plus manuel,
d'artisanat. Mais ça c'est quoi finalement ? C'est qu'on se trompe de passion ? On n'arrive pas à dessiner la passion.
C'est bizarre comme phrase.
Non, c'est qu'il y a une grille.
C'est bizarre comme phrase, se tromper de passion.
Non, c'est-à-dire que le système te fait croire que tu es fait pour être justement médecin, chercheur, ingénieur.
Oui, des métiers favorisants.
Et au fond de toi, tu as une passion, qu'elle soit artistique, qu'elle soit manuelle, qui n'est pas regardée ou conçue comme étant brillante, reconnue.
C'est
comme
ta petite lumière que tu n'as pas su regarder.
Ouais, puis on se dit non.
Mais les diplômes, ça rassure les parents souvent.
Ça rassure les parents et soi-même aussi. Et puis pardon, dans l'échelle sociale, tu te dis, je vais gagner mieux ma vie, je serai plus autonome ou plus indépendant, accessoirement plus riche en étant médecin ou en étant chirurgien ou dentiste qu'en étant pâtissier, fraiseur ou maçon.
Regarde-toi, si tu avais été à l'école, on te respecterait.
Ouais, c'est vrai.
Et là, non, force de
Non, mais c'est que les parents, légitimement, ont envie pour leurs enfants qu'ils accèdent à un niveau social supérieur, qu'ils soient plus tranquilles, qu'ils ne soient pas dans le besoin et surtout qu'ils exercent des métiers qui, physiquement aussi, parce que c'est ça, c'est la dimension physique qui est importante, se dire qu'on vieillit quand même beaucoup mieux quand on est ici autour d'un micro que quand on se lève pour aller à l'usine tous les matins.
Bon, non,
mais
parle
c'est
pour
vrai.
Toi. Hein.
Oui, mais toi, c'est ta qualité de vie.
Mais je pense qu'on a, une grille de lecture, si vous voulez, qui nous est donnée par l'éducation que l'on reçoit à l'école. Et notre appréciation, elle nous est donnée par les notes que l'on reçoit. Vous voyez ? Et souvent, ça nous fragilise si on n'a pas des bonnes... Moi, j'étais dyslexique, dysorthographique. Donc, à l'école de Jules Ferry, basta, on n'a plus la place. Quoi. Donc, à un moment donné... Et je vous suis, et je corrigerai ce que je dis, effectivement, ce n'est pas réservé la formation professionnelle. À un moment donné, quand on a envie de faire quelque chose, c'est tellement plus facile la vie quand on suit une voie qui ne vous plaît. Quoi.
On va continuer à en parler. L'autonomie, en tout cas, n'est pas uniquement l'autosuffisance en matière de récupérer l'eau de la pluie.
Ça en fait partie, mais c'est pas que ça.
Cultiver ses tomates, mais c'est aussi gérer son propre corps, ses émotions, ses envies et sa propre vie. C'est publié aux éditions Rustica.
Et ce mois-ci, dans Système D, mode d'emploi, comment utiliser un marteau-piqueur.
Voilà, oui, ça existe encore au Système D.
C'était ma grande surprise.
Ouais, ça existe encore.
Depuis 1924, ça existe.
Voici Maréchal Gall. Maréchal, ça va être un succès.
Avant Charles Laguet, outre les perspectives éthiques et philosophiques de ce livre admirablement résumé, page 44, dans la sentence « La nature n'est pas le décor de notre existence, nous sommes la nature ». Réfléchissez. Oser l'autonomie est un impératif qui va séduire un vaste public, impératif qui me plaît. Parce que je sens, et là-dessus mon flair ne me trompe jamais, je sens que c'est un ordre donné par un gars qui en a dans le front. Mes compliments, Étienne Jean-Louis. C'est abandonner, je cite, ce qui est acquis pour de nouvelles explorations, ce que semble avoir compris Morin, puisqu'il a découvert une nouvelle chemise ce matin. C'est maîtriser ces automatismes neurovégétatifs.
C'est ta vue qui baisse, c'est la même.
Je l'ai mise à l'envers.
Maîtriser ces automatismes neurovégétatifs pour ne pas paniquer comme une flippette, ça c'est page 13. Repeupler les campagnes pour gober les œufs de ces poules, page 27. Pour ma part, monsieur Étienne, l'évocation de votre marche vers le pôle Nord m'a bouleversé. Le récit de ce chemin de croix polaire qui fut le vôtre, sur cette banquise infernale, il suffit d'en changer quelques mots pour qu'il raconte mon calvaire dans la jungle infernale. C'était en 54, après mon évasion du bagne de Gang Bangkok.
Non, je suis pas sûr qu'on ait.
Alors, je vous cite et remplace certains mots. Les premiers jours furent horribles, tant les obstacles. Très basse température, très haute température, banquise chaotique, jungle chaotique, danger mortel, dépassait tout ce que j'avais imaginé. Continuer était un combat permanent, une lutte incessante contre l'abandon, contre les viettes. Oui, Jean-Luc, tout ce que tu enduras par un froid atroce, je l'ai enduré par une chaleur atroce. Moi, c'est pas les ours blancs qui auraient pu me bouffer, mais les hommes du général Suziwan. Mais la différence entre toi et moi, Étienne, entre frères d'armes, on se tutoie, c'est que si toi, tu ne lâches à rien, en revanche, moi, j'ai tout lâché. Pour survivre, je me nourrissais essentiellement de baies sauvages, et c'est comme ça que, par erreur, je me suis gavé des fruits d'un fist fucus, à la suite de quoi, oui, c'est une plante sauvage, faute de régulation homéostatique, j'ai eu le fion horriblement brûlé, comme si j'avais mangé 3 kilos de wasabi. Depuis, je ne peux rester assis plus de 3 minutes d'affilée. Aussi,
ça, c'est une bonne nouvelle.
Laisser, merci. Et laisser la place, allez, à mon ami Albert Algou.
Et Jérémy Crivine est là aussi.
Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Je vais vous parler d'un sujet un peu flou pour certains autour de cette table, le sport. Alors, si, il ne faut pas confondre. J'ai fait un petit détour par l'Allemagne.
Il ne faut pas qu'on soit en direct, sinon on aurait pu couper.
Il ne faut pas confondre sport et sport. L'un est un ensemble de pratiques d'exercice destinées à améliorer ses capacités physiques. L'autre, c'est du sperme de champignon. C'est pourquoi.
Ah, sport.
Oui, c'est pourquoi quand un ami vous dit le sport, j'en ai plein le cul, demandez-lui de vous l'écrire. Hein, au moins vous serez fixé sur sa pratique. Bon, après, s'il a une forte odeur de truffe quand il vous le dit, ne perdez pas de temps à vous demander de vous l'écrire. Hein, c'est sûrement qu'il aime courir nu dans la forêt en se frottant à des cèpes. D'ailleurs, vous ferez attention, Nagui, il vous reste un petit peu de mousse sur la joue. Le sport, donc. Alors, je disais que c'était flou, mais c'est pas vraiment flou pour tout le monde, hein, puisque, je vous le rappelle, Daniel Morin était prof de yoga.
Ouais.
Au Club Med.
C'est vrai.
Hein, et oui.
C'est vrai.
C'était à une époque où en France, il nous manquait l'Alsace et la Lorraine. Depuis, on les a récupérés et la France, fou, comme Daniel, a changé de forme. L'été approche. Et qui dit été dit summer body. Hein, summer body, traduit par été corps, ce qui ne veut rien dire. Bon, qui
le
dit été.
Corps de l'été.
Ouais, voilà. Qui dit été dit aussi pétanque, pastis, barbecue, tromperie derrière la dune et sable dans l'arrêt. Et c'est justement pour ça qu'il faut un summer body. Pour avoir un corps bien sculpté en juillet, prêt à être bien dégueulasse en septembre. pour être prêt cet été, c'est maintenant qu'il faut faire du sport. Ouais. Hein, parce que la plupart d'entre nous, on s'y met mi-juin et puis on dit, ah bah merde, je comprends pas, j'ai fait 20 squats et 12 abdos, ça marche pas. Non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, avant de vous donner quelques conseils sportifs, je vous propose un petit intermède musical avec Julien Goret.
Okay. Bonjour à tous, c'est Julien Goret sur France Inter, extrait de mon nouvel album Gros Murmure.
Mmh, pas mal.
Ouais, merci. Je fais de l'exercice, mais je trouve ça relou.
Bien.
Merci. Ah. J'ai mes deux cuisses qui glissent et mon ventre est tout mou. Quand je lève une barre, j'ai la couleur d'un homard.
C'est ça en plus.
Après 2 heures en salle, quand je m'assois, j'ai mal.
Voilà, bon, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Au moins, je bafouille pas quand
c'est
je chante.
Bravo.
Bon, après, le sport, c'est un culte. Hein. On dit ça de moi aussi, tiens, Jérémy, c'est un culte. Pour certains, c'est une religion. Il y a des croyants non pratiquants. Hein. Ils aiment bien l'idée, mais concrètement, ça n'a aucun impact dans leur vie de tous les jours. Ils continuent à manger du bacon, à boire de l'alcool. Et le samedi, rien ne les empêche d'utiliser les appareils électroniques, surtout les escalators et les ascenseurs. Dans le sport, il y a également des croyants pratiquants qui appliquent les principes de leur foi. Après, c'est selon leurs convictions. Ils font ça seulement le dimanche matin, ou bien 5 fois par jour sur un tapis en laissant leur basket à l'entrée de la salle. Chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Bien évidemment, si on parle de sport, faut pas oublier les athées, hein, l'athétisme. Ils ne croient pas.
Salut
Daniel.
Avec Julien Doré, t'étais monté. Tu vois, et là.
J'aime les jeux de mots.
C'est la chute.
Non, les athées, ils ne croient pas, ils ne pratiquent pas, et ça se voit. En gros, moins tu crois en l'effort physique, plus tu crois en taille de slip. Et dans le sport, Elias, il y a aussi les extrémistes, les fondamentalistes du jogging, les terroristes du fitness, les djihadistes de la salle de muscu qui regardent les femmes comme les dernières des mécréantes si elles osent sortir dans la rue sans survêtements. Hein, parmi ces extrémistes, il y a par exemple des personnes qui s'adonnent aux ultra-trails.
Ah oui.
Ouais, vous voyez courir comme c'est chiant?
Ouais.
Et ben là, c'est pareil, mais en plus long. Il y a par exemple un ultra-trail à Bath, en Angleterre, l'équivalent de Bain, en France, où les concurrents doivent effectuer 100 allers-retours dans un tunnel d'1,6 km en moins de 55 heures. Moi, je suis pas contre des allers-retours dans le tunnel tant que je suis derrière. Mais là, courir 320 km, bonsoir, courir 320 km en 2 jours et demi dans un tunnel, mais manger pissé, ça te fera chier pareil. Et à l'autre extrémité de ces fanatiques de l'effort, t'as des gens qui disent qu'ils ont fait leur sport de la journée, soit parce qu'ils ont ri, oh bah j'ai fait ma séance d'abdos, soit parce qu'ils ont monté 5 étages à pied. Mais monter des étages à pied, ça n'est pas un sport, Karen. Aux Jeux Olympiques, il n'y a pas d'épreuve de montage d'escalier à pied, merde. Bon, j'ai mes combats. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je me fatigue à vous parler de tout ça. Avec le dérèglement climatique, bientôt l'été, ce sera soit jamais, soit tout le temps. Donc au final, le Summer Body, c'est comme l'espoir de réussir une chronique sans bafouiller. On peut l'oublier.
Merci, Jérémy Clavier. Jean-Louis Etienne, dans Oser l'autonomie, il y a une chanson. Elle compte beaucoup, cette
oui,
pas que la musique de Clapton, mais les paroles aussi.
Change the world,
changer le monde.
Oui, c'est important parce que on vit dans un monde qui se rétrécit, je trouve. Il y a on a peur de sortir du sentier. Il y avait une magnifique phrase de Brel dans une de ses chansons. Le monde se meurt par manque d'imprudence. Magnifique, ça. Ça, c'est du Brel. Et je trouve qu'effectivement, on vit dans un milieu qui est de plus en plus normatif.
On n'a pas, plutôt l'impression inverse maintenant, qu'on vit dans un monde qui va mourir par manque de prudence sur l'écologie, sur le respect, sur...
Oui, mais, moi je parle...
Les prévisions de vos camarades qui voient justement votre cher et tendre pôle Nord rétrécir
bien sûr. Non, mais ça, le changement climatique, c'est une fièvre chronique de la Terre et ça ne va pas s'arranger.
Mais pardon, on en
est... La 38, la Terre, aujourd'hui.
On en est responsable.
On en est responsable, bien sûr. Non, mais je suis un ardent défenseur de l'action. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire la liste de tout ce qui ne va pas. Mais mettre en œuvre des solutions, il faut de l'énergie.
Bien sûr.
Vous voyez, c'est cette énergie-là qui m'intéresse.
Donc vous voulez rester optimiste, en fait.
Apporter de l'énergie pour les solutions. On a l'intelligence des solutions. On n'a pas l'énergie ou la sagesse de les mettre en œuvre. Quoi. C'est ça qui est important. Moi, je dis à tout le monde, soyez efficace sur votre zone d'influence. On a une zone d'influence dans ses choix de vie, dans ses choix d'achat, dans ses choix de transport, dans ses choix de chauffage, dans l'isolation de l'habitat. On peut être des acteurs du changement climatique dans le bon sens.
Notamment
si vous
en consommant moins.
Ouais. En faisant des choix de consommation alimentaire, de transport. Voilà. Et donc, si tout le monde dit c'est foutu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est pas intéressant. Parce que, par contre, encore une fois, on a des solutions à l'échelle personnelle. C'est celle-là qu'il faut mettre en œuvre. Ce n'est pas tout le temps de dire, papa, il faut faire quelque chose. Donc, chacun, on peut mettre en œuvre des choses.
Oser l'autonomie, Jean-Louis Etienne. On va en reparler, évidemment, encore de ce livre court et passionnant et dense, mais en musique, justement. Il n'y a pas que Clapton dans votre vie. Vous écoutiez dans les années 60.
Quand le soleil se lèvera demain, je serai déjà... Loin, très loin, il faut se quitter en chemin. Mais n'y pense plus.
Donc ça, c'est parce que
c'est all right.
Vous vouliez jouer à la guitare?
Je joue à la guitare, oui. Ce qui est génial avec la guitare, c'est que quand on commence, déjà avec 3 accords, on arrive à chanter. Donc je chantais des chansons. Et c'était l'époque où Hugo Frey avait sorti un disque sur les traductions de Bob Dylan.
Bob Dylan, oui.
Et donc j'en chantais notamment celle-là.
Et en 65, on a parlé tout à l'heure du CAP d'ajusteur, etc. On va développer la suite, cet etc. Il y a un baccalauréat technique à Mazamé, qui est une ville chère à votre cœur. Et puis ensuite, la faculté de médecine à Toulouse. Vous aviez déjà en tête de devenir médecin d'expédition?
Non, je voulais être médecin. Quand j'ai eu la perspective du bac, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ingénieur, architecte et médecin. En fait, j'aimais les sciences naturelles et j'avais envie d'une implication sociale, ça me paraissait... voilà. Donc j'ai décidé de faire médecine.
Ce qui était un problème à la maison, moi j'habitais dans une famille très modeste, dans un petit village, et dont le noble était le médecin et le notaire. Et mon père ne savait pas ce qu'ils allaient faire avec un médecin dans la famille. Mon père savait, mon père était perdu. Je dis, t'inquiète pas. Il craignait aussi que ça coûte cher. Je dis, je me débrouillerai. Donc encore une question d'autonomie, si vous voulez. Donc je me suis débrouillé pour faire mes études.
Comment on se débrouille pour passer d'un CAP à la fac de médecine? Parce qu'aujourd'hui, cette passerelle, elle semble totalement impossible.
Donc, après le CAP, on passait au BEP, brevet professionnel. Et là, on était quelques-uns qui ont été orientés vers le bac technique qui venait d'être créé. Mm-hmm. Et donc, j'ai bénéficié de cette création. Je suis rentré en seconde directement.
D'accord. Mais aujourd'hui, avec un bac technique, on ne fait pas médecine.
Mais ça va peut-être se refaire parce qu'on a supprimé le numerus clausus, ce qui est une hérésie totale. Moi, j'ai fait 12 années de médecine générale. Pour gagner ma vie, en alternance avec des expéditions.
Numéro 6, il faut rappeler que ça limitait le nombre de places.
Oui, avec une sélection tellement compliquée.
Ouais. Ouais.
En médecine générale,
et si on n'a pas la bonne place dans le bon secteur,
on a cassé des vocations. Pour ça qu'il n'y a plus personne, si vous voulez, on a cassé des vocations en faisant des hyper spécialistes. Moi, j'ai fait 12 années de médecine générale. On a besoin de quoi? On a 30 médicaments, de l'écoute et du bon sens. C'est la base. C'est la base de tout en médecine générale. Il y a des statistiques, 8 malades sur 10, enfin, 8 consultants sur 10 n'auraient pu se débrouiller seuls.
C'est vrai?
Oui.
C'est fou.
Oui.
Le cas là, vous encouragez l'automédication et ceux qui font un peu tout et n'importe quoi.
Mais là où je le rejoins, c'est qu'il y a énormément de médecins qui disent que, par exemple, si jamais les gens changeaient leur alimentation ou se mettaient à une pratique sportive régulière, il y a énormément de maladies que la médecine traite et est obligée de traiter quotidiennement qui disparaîtraient pour l'hypertension, pour le diabète, pour plein de choses. Donc,
d'où le remboursement parfois par la sécurité sociale, l'activité physique de plus en plus.
Donc là, il y a quelque chose, je suis d'accord.
Oui, c'est un métier d'écoute, la médecine générale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de rassurer, d'écoute, d'orienter. Des fois, on dit, vous avez mangé trop ceci, trop cela, peut-être il faut, etc. Donc, c'est un métier d'accompagnement. Après, si on ne sait pas, il y a des spécialistes. Mais on a tué cette génération de médecins de campagne qui étaient là pour faire de l'écoute.
On l'a peut-être refait naître un tout petit peu avec le médecin traitant... comment il s'appelle?
De famille?
Le référent.
C'est un référent.
Oui, c'était d'avoir une personne qui vous suit le plus longtemps possible.
Qui vous connaît.
Et qui est au courant de tout et qui vous connaît. Peut-être ça, c'est une main tendue pour revenir vers la médecine dont vous parlez.
Oui, mais elle est importante. Donc, on essaye de créer des centres de soins, de réunir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les médecins... Moi, j'ai connu la médecine générale. Mes premiers remplacements en 72, on était réveillés toute la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un sacerdoce total, quoi. On peut aujourd'hui faire les choses en collaboration avec plusieurs, quoi.
Alors, on en arrive justement dans les années 70. En 77, vous écoutiez... Welcome to the Hotel California.
Such a lovely place, such a lovely place. Il existe, hein? Such a
lovely place. On a tellement de talent autour de cette table.
Et c'est médical. L'hôtel California.
Qui s'est passé là-bas?
Moi, j'y étais, c'est au sud de la Baja California.
Mais vous savez ce que c'est? Ou ce que c'était, en tout cas, l'hôtel California?
C'était quoi?
Non, c'était un centre pour...
Pour les toxicomanes.
C'est pas du tout un hôtel, quoi, je veux dire.
C'est un hôtel, par contre, aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui, c'est un hôtel?
Oui,
d'accord.
Mais c'est au sud de la Baja California, c'est un hôtel, oui, effectivement. C'était un repère de toxico, bien sûr.
Et dans la chanson, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent.
Hein, oui.
Vous pouvez partir à tout moment, mais vous n'en sortirez jamais. Ce sont les paroles d'Hôtel California, mais c'est un truc de toxico.
Et partir à tout moment, c'est ce que vous faites, finalement, en 77, avec Eric Tabarly, qui vous embarque à bord de ce Pentwick pour la grande traversée.
Quel numéro à ce moment-là? 6,
Pentwick 6,
Et vous l'avez, en fait, vous êtes écrit?
Je l'avais rencontré à Rio, à l'aéroport. Moi, je rentrais d'une ascension du Fitzroy. C'était un sommet qui est en Patagonie. Et je voulais embarquer, je voulais naviguer. Et donc, on m'avait dit, Tabarly, c'est le seul qui a un bateau qui fera la course autour du monde pour le moment, Pentwick 6. À l'aéroport à Rio, Tabarly. Et là, je me suis dit, il faut y aller. Donc, Tabarly, c'était... Il m'a mis un peu de distance. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je suis alpiniste. C'était le truc qu'il fallait dire à Tabarly. Parce que si j'avais dit que j'étais un marin, mais il y a encore un marin qui veut chercher un embarquement, je suis alpiniste. Mais qu'est-ce que vous faites, etc. J'ai dit, écoutez, je suis médecin. Je suis sportif. J'aimerais naviguer. Je peux y consacrer du temps. Donc j'ai donné mon adresse et il m'a réécrit un an après. J'étais revenu à la fac. J'étais assistant à l'université. Je reçois une petite lettre d'Eric. Je dis petite parce qu'il écrivait tout petit, Eric. Il me proposait la course autour du monde, partir pour Los Angeles, pour la Transpac et tout. Donc Alors que j'ai abandonné ce poste-là.
Alors que vous venez juste de vous installer, d'avoir un appartement.
C'était la première fois que j'avais un appart à mon nom, ouais. C'est vrai. J'avais toujours, avec une boîte aux lettres, et dans cette boîte aux lettres, une lettre d'Éric Tabarly, et j'ai tout arrêté au bout de 3 mois. Et j'avais eu un poste à la fac d'assistant, et je me suis rendu compte en disant que j'allais partir, que j'avais... J'avais plein de monde qui étaient des amis, qui me disaient « ce qu'il paraît que tu pars, tu libères le poste, etc. Voilà. » Et donc je suis parti sans, naturellement. Quoi. Ouais. C'était tellement content de partir. Quoi.
Et Tabarly, ce n'était pas un grand causeur.
Il dirigeait par le silence, Eric.
Ah, ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire qu'il avait...
Nagui, écoute.
On connaît pas, nous.
C'est écoute, franchement... Hein.
Je dirige pas, moi.
Tu maltraites.
Il parlait peu, ouais. Il connaissait le sujet. Et
il y a des messages là.
Nagui.
Deux et donc, trucs. Quand le vent changeait ou de direction ou de force, on allait voir Eric, ça fraîchit, ça change, etc. Voilà. Puis il disait à petite voix, bon, on va prendre un riz, ça veut dire on réduit la surface de voile.
Tu vois, alors que moi, quand le vent tourne, je change rien.
Ouais, regarde le
c'est ce qu'il disait le mec qui conduisait le Titanic, je crois.
En 1986.
Oh, c'est un bon glaçon.
Véronique Sanson, lorsque vous écoutez cette musique, est-ce que vous vous revoyez seul au Pôle Nord?
Oui, je me seul. Je peux vous raconter ma relation avec Véronique Sanson au Pôle Nord, si vous voulez.
Ah oui.
C'était la seule cassette que vous ayez emportée musicale.
Oui, et puis c'était des Walkman.
Ouais.
Et des Walkman, c'était gelé. Le Walkman, ça a un peu de mécanique, il y a une petite goutte d'huile dedans, donc c'était gelé. Et donc j'étais coincé sous le blizzard, sous la tente, et je me suis dit... Tiens, c'est le moment peut-être d'écouter un peu de musique. Et j'ai mis le Walkman, et ça marchait pas. Et j'ai compris qu'il tournait pas, il était gelé.
Ah mince.
Donc je l'ai mis dans le sac de couchage entre les cuisses, ouais. Chaud. Et je me suis endormi.
Vous avez mis Véronique Sanson.
Et tout d'un coup, attends, je me suis endormi. Je me suis endormi et tout d'un coup, j'entends. Oh, oh. C'était Véronique Sanson qui dégelait.
On va dire.
Qui était en train d'étouffer, ouais.
C'est vrai,
c'est vraiment
vrai.
Un gars qu'on a dans le froc.
C'est vrai. Hein.
Véronique Sanson qui dégelait. Voilà.
Mais
elle est au courant ou pas?
Vous nous refaites le début de Véronique.
Entre les cuisses.
Ça c'est fait. Parlons parce que la question quand on lit votre livre Oser l'autonomie, Jean-Louis Etienne, c'est se demander.
On est en plein dedans là.
C'est se demander si c'est possible. Et il y en a un qui est bien placé pour nous dire que c'est possible. C'est Patrick Baronnet. Merci Patrick de venir à ce micro.
Bonjour.
Vous êtes un pionnier de l'autonomie dans tous les domaines d'ailleurs, qu'elle soit alimentaire ou énergétique.
Oui, alimentaire, habitat, énergétique, eau, épuration, et puis aussi soi-même, être autonome.
Alors, commençons par l'eau, qui est, sans laquelle on ne pourrait pas vivre. Vous êtes autonome en eau depuis combien de temps?
43 ans.
C'est-à-dire
qu'on voit, on paye pas de facture d'eau depuis 43 ans.
Vous êtes un escroc, c'est ça? Vous êtes un escroc, vous n'êtes pas autonome, vous payez pas vos factures, c'est tout.
Vous avez un puits.
Alors, au départ, on avait un puits... Ouais. Dans les années 76, et puis on a été obligé d'abandonner le puits.
Parce que la nappe phréatique...
Ben voyons,
d'accord.
Et à cause des pratiques agricoles. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on a un problème, on a une solution. Et donc, j'ai rencontré un universitaire de Belgique qui avait mis au point un système de potabilisation de l'eau de pluie. Et donc, depuis 25 ans, on boit de l'eau de pluie extrêmement bonne à boire pour des tas de raisons.
Et quand il pleut plus, quand il y a des sécheresses...
Alors on a des réserves, on a 8000 litres qui nous permettent d'être toujours avec un fond de citerne en fin septembre.
Quoi. Et l'eau est traitée comment pour
On ne la traite pas. En fait, nous, on l'a pas traité pendant un certain temps.
Est-ce que c'est électrique?
Ce qui fait que l'eau est potable, c'est la manière de la stocker. C'est-à-dire qu'elle va être stockée dans des citernes en ciment qui va remonter le pH et qui va la minéraliser.
C'est fou.
Et donc, c'est une très bonne eau à boire. Les scientifiques le reconnaissent tout à fait.
Ça dépollue l'eau.
Sans électricité.
Alors, sans électricité,
sans
bien entendu.
Sans pastilles de je sais pas quoi, rien.
De chlore.
Non. Alors, il y a de l'électricité pour la mettre sous pression. Mm-hmm. C'est ce qui consomme d'ailleurs le plus dans notre maison. Quand vous buvez de l'eau du robinet, faut savoir qu'il y a énormément de grosses pompes qui mettent sous pression votre eau. Et donc, nous, notre autonomie en électricité, ça fait 23 ans qu'on paye pas de facture d'électricité.
Alors, justement, l'électricité, vous l'avez, par quoi? L'énergie éolienne? Vous habitez en quelle région d'abord, pardon.
Alors, je viens, ce matin, je suis élevé à 5 heures de, entre Rennes et Nantes, à Châteaubriand exactement. Disons que c'est le début de la Bretagne.
D'accord. Et alors, comment être autonome en, en électricité?
Alors, la première chose, c'est une transformation personnelle. C'est-à-dire que c'est ce que je dis. C'est, on a divisé par 8 notre consommation électrique, sans privation. Donc, ce qui est important, je parle souvent de sobriété heureuse. Si vous enlevez heureux, la sobriété n'a aucun sens. Donc, nous, on est épanouis là où on est. Quand je dis nous, c'est ma femme et nos 4 enfants. Et donc, on a diminué nos consommations et on a tout le confort. On a machine à laver, on a aspirateur, on a construit 2 maisons en étant complètement autonome. 2 autres maisons, parce que là aussi, au niveau de l'habitat, on essaye de faire des maisons écologiques surtout pas chères. Et donc, on a pas de problème. Et l'important...
Mais elle vient d'où, votre électricité?
Alors, notre électricité vient de, pendant 20 ans, c'était 6 mètres carrés de photopiles, pas plus, et une éolienne. Et donc là, on a une nouvelle éolienne.
Pardon, 6 mètres carrés.
Oui, je sais bien. Oui.
Ne peuvent pas satisfaire les besoins de 6 personnes dans une maison.
Donc les enfants pédalent le soir.
C'est vrai. Oui, bien sûr, c'est vrai.
Il y a une machine à laver, un aspirateur.
Il y a un vélo avec une dynamo.
C'est quoi la sobriété heureuse?
Les mecs qui installent ça sont des arnaqueurs.
Ah non, attendez, c'est moi qui ai tout installé.
Alors c'est quoi la sobriété heureuse? Parce que ça veut dire que l'électricité, si vous en avez suffisamment avec ça, c'est que vous ne consommez pas beaucoup d'électricité. Par ailleurs.
Je veux la fin du devis. Je veux la fin du devis parce que c'est quand même grave ce que vous me dites là.
Oui, très bien.
Enfin, c'est pas non plus déclaration de guerre.
Qu'est-ce qui est grave? Dites-moi.
Non, ce qui est grave, c'est qu'j'ai appelé des boîtes et j'ai voulu passer aussi à l'autonomie. Non. Et donc j'ai appelé des boîtes parce que je ne sais pas, j'ai pas le temps, j'ai pas la connaissance.
120 mètres carrés de.
Oui, exactement. Et pour la consommation, j'ai 4 enfants comme vous et on est 2 pareil. Enfin voilà, on est 6 dans la maison. Et là, on me dit, alors, vous avez besoin de, alors peut-être pas 100 mètres carrés, mais de 50, 60 mètres carrés.
Mais t'as peut-être des besoins en énergie. Mais
la grande différence entre vous et moi, c'est la consommation.
Oui, mais non, mais pas du tout. Ils m'ont jamais demandé quelle était la consommation.
Oui, mais on connaît le profil, sans doute, je sais pas. Mais...
Ah, Nagui, on connaît le profil. Non, t'es connu, Nagui.
Je réagis pas, je me lève pas.
Non, mais on connaît le profil.
L'important, c'est de communiquer en bonne intelligence.
Qu'est-ce qu'il y aurait?
Tu vas avoir plein d'autonomie, là.
Non, si vous voulez, il considère que vous êtes un Français, pas moyen, mais...
Allons-y.
Oui, et ce que je veux dire, c'est qu'un Français consomme 8 fois plus que moi, que nous. Donc, il s'est basé sur la consommation moyenne des Français, donc la vôtre.
Alors là, on rejoint la question de Leïla.
Sobriété heureuse, ça veut dire que vous consommez beaucoup moins.
Absolument.
Beaucoup moins.
En tout.
C'est-à-dire, alors comment ça s'organise concrètement dans une maison? Vous avez parlé de l'aspirateur quand on en a besoin, vous avez parlé de
machine à laver,
le reste, c'est
alors,
quoi?
La machine à laver, c'est important parce que
elle est alimentée
par l'eau chaude du capteur solaire.
D'accord.
Donc, c'est une résistance de 2 kilowatts qui consomme pas. Le reste, on a des LED au niveau... Donc, on n'a pas de frigidaire, mais on pourrait en avoir un. C'est qu'on a tellement pris l'habitude de ne pas en avoir qu'on n'en a pas besoin. Ouais. Et donc, on n'a pas besoin de grand-chose. Au bout du compte, on a ordinateur, on a l'électroménager, l'électroportatif. On a même une bétonnière qui tournait avec les énergies renouvelables quand on a fait la maison. Donc, nous, on consomme en gros 1,5 kW par jour et par personne. Moyenne des Français, c'est 12.
Alors, où est-ce que vous économisez? Parce que vous parlez de toute installation qui ressemble à ce que j'ai chez moi ou ce que Nagui peut avoir chez lui, c'est l'économie, elle se fait où, à part le frigo?
L'économie au niveau de
l'électricité,
de l'électricité.
Ouais.
Bah écoutez, je sais toujours pas comment on peut consommer autant.
Ou si peu.
et nous, si peu, on est très bien avec ça.
Est-ce que par exemple, tous les appareils qui sont en veille, vous les débranchez?
Oui, bien entendu.
Il faut expliquer qu'une télévision, lorsqu'elle est éteinte et qu'il y a le petit point rouge qui est en veille, consomme autant que si elle était allumée.
Voilà, et quand vous touchez le matin le transformateur de la télé, il est chaud. Et la chaleur, c'est l'électricité.
Non, mais il faut le dire.
Bien sûr.
C'est vrai que l'exercice que l'on peut tous faire à la maison, c'est de tout éteindre, de tout couper et d'aller voir son compteur.
Voilà.
Et quand on voit le compteur qui continue de tourner, c'est impressionnant.
Alors, s'il continue de tourner, alors que
apparemment, chez
vous
toi,
mais je l'ai fait, ça.
Par exemple, le chauffe-eau électrique.
Ouais.
Vous rentrez dans une maison, il fait pas de bruit, mais il consomme sans arrêt. Et vous avez 300 litres à 60, 70 degrés que vous utilisez même pas, mais n'empêche que ça tourne. Donc,
vous faites comment, vous, alors?
Comment? À nous, on a un chauffe-eau solaire que j'ai fabriqué moi-même il y a 35 ans d'ailleurs. Sauf que et donc 8 mois de l'année, on a de l'eau chaude gratuite.
Sauf que le chauffe-eau électrique, nous, on peut pas le couper parce que si on le coupe, après, il faut le réenclencher pour rallumer l'eau chaude. Est-ce qu'en termes de consommation,
vous pouvez le régler pour le mettre à 38 degrés, par exemple, au lieu de le mettre à 60 degrés. Voilà, c'est des choses très simples.
Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que vous présentez cette simplicité-là qui, regardez, on est autour de cette table
de bonne volonté.
Et dès que l'on pose des questions à des spécialistes, dès que l'on veut changer quelque chose, d'un coup, ça devient impossible, ou à Paris, on n'a pas le droit de mettre des panneaux solaires sur le toit de notre maison.
Ah, je sais pas.
Ah ben moi, je vous le dis, j'ai fait la demande.
Je crois.
Non, vous n'avez pas le droit.
Ça, c'est grave. C'est grave de ne pas pouvoir.
Vous n'avez pas le droit parce que ça porte atteinte à l'esthétique du.
Que personne ne verra.
Pardon ?
Que personne ne verra.
Oui, que personne ne verra en plus. Ouais. Mais c'est comme ça. Donc, vous n'avez pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On attend que quelqu'un invente des tuiles qui ont des formes de tuiles, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que ça.
Le problème de la ville, c'est qu'un jour, j'étais à Porte de Clignancourt. Quelqu'un me demandait de l'ADEME. Est-ce que Paris peut être autonome ? Je crois pas que Paris peut être autonome. Il y a beaucoup trop de monde sur un aussi petit espace. Et donc, un des problèmes majeurs, c'est la concentration urbaine. Et moi, j'ai assisté à l'exode urbain, c'est-à-dire que la plupart des gens sont venus à Paris, sont montés à Paris au moment où nous, on descendait. Et en campagne, il y a beaucoup plus de disponibilité et de facilité qu'en ville, c'est sûr.
Et quel sentiment, vous avez un sentiment quoi, de propreté, de tranquillité, de paisibilité, de sobriété heureuse quelle est votre philosophie de vie ?
Moi, ce que je pense, c'est que si on veut faire vraiment quelque chose d'efficace...
Je précise que vous avez 140 ans, hein, donc c'est important de préciser aussi que on vieillit mieux.
Quoi. Oui, c'est gentil, ça, c'est un petit retour. Non, je pense...
C'est bien vous lire. Partout, hein. Parce que nous aussi, on n'osait rien dire, mais c'est vrai.
Oui, alors votre question, c'était...
Ne l'encouragez pas à reparler, parce que sinon on a pour une heure.
Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Alors, ce que ça m'apporte, c'est un travail sur moi. Une entente dans le couple, parce que pendant 49 ans, on était d'accord ensemble pour essayer d'être honnête par rapport à la planète. Et la première chose à faire, c'est de diminuer sa consommation.
Bien sûr.
Et ensuite, de remplacer les centrales nucléaires, le gaz, le pétrole,
Par des éoliennes, par l'énergie marémotrice, par les panneaux solaires.
Voilà. Marémotrice, on est à 80 km de la mer, c'est compliqué, mais ça peut se faire.
Bah, faites un effort.
Mais... non, je pense qu'on a une grande satisfaction d'avoir fait ça, mais on ne l'a pas fait que pour nous. C'est quand même, on a eu 40 000 personnes qui sont venues chez nous et que ça continue.
Ça augmente.
Ça veut dire qu'il y a une demande énorme des citoyens français
qui viennent visiter votre maison.
La maison autonome.
Oui. 40 000 personnes.
Mais ils vous préviennent d'en venir.
Il a fait un parking.
Bien sûr qu'ils nous préviennent. On a balisa, mais on fait des formations aussi. En habitat, voilà. En énergie, en eau.
Est-ce que vous avez beaucoup dépensé, vous avez beaucoup investi justement pour arriver à ce résultat-là, de cette autonomie et donc, in fine, de cette économie aussi financière ? Parce qu'on a un peu sensation qu'il faut quand même pouvoir investir un petit peu fortement.
C'est vrai.
Au départ.
C'est vrai.
Cet argent.
Avec mon épouse, on a vécu assis sur un seul demi-salaire. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'on faisait une sorte de laboratoire pour essayer de montrer qu'on peut vivre heureux avec peu. Mais l'investissement, je suis d'accord avec vous qu'au départ, il faut de l'argent. Mais quand on est bricoleur et qu'on fait pratiquement tout soi-même, ça divise par deux, trois, l'investissement de départ.
Ouais. Et puis à la fin, vous récupérez tout cet investissement les économies que vous faites.
Bien sûr, parce que ça fait quand même... L'eau, ça fait 43 ans d'absence de facture d'eau, 23 ans d'absence de facture d'électricité,
dingue.
Une maison qu'on a construite, donc pas de loyer. L'alimentation du jardin pour beaucoup.
Et puis, et puis l'empreinte que vous laissez à la planète, zéro.
Voilà, donc disons qu'on a fait ça au niveau de l'écologie. C'est-à-dire qu'on a quitté Paris parce qu'on a compris que pour faire une expérience, il fallait être en campagne.
Évidemment, vous avez des animaux. Évidemment, vous récupérez les déchets, le compost. Vous donnez ça à manger aux poules et
ainsi de suite. Bien sûr, on a tout ça. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aussi, on est co-amo. C'est-à-dire qu'on a fait une expérience pendant 35 ans en famille. Mais notre idée, c'était d'élargir la famille à une micro-société qu'est un éco-hameau. Donc, on est maintenant une dizaine sur un hameau. Et notre ambition, ça serait de montrer qu'il est possible de généraliser notre propre manière de vivre.
Et ça donne envie, en tout cas. Mmh. Ça s'appelle le livre que vous avez publié, De la maison autonome à l'économie solidaire.
Et j'insiste, autonomie solidaire. Quand on est autonome, on est très solidaire.
Et la sobriété heureuse, j'adore voilà. Votre formule. Merci beaucoup, Patrick.
Avec plaisir.
D'être venu à ce micro. Tanguy Passureau, est-ce que vous avez une trottinette électrique, vous?
Alors non, la réponse est non, parce que j'ai conscience de la mort et passer en trottinette entre un bus et quatre taxis m'effraie. Mais les autres ne sont pas comme moi aussi trouillards. Ils foncent et donc meurent. Hein. C'est une forme de sélection naturelle par la trottinette, Nagui.
Quelle horreur. On en parle après les infos de midi. La bande originale, soyez bienvenus si vous nous rejoignez avec nous, la cadeau.
Bonjour.
Jérémy Crédville, Tanguy Passureau, Frédéric Sigrid, Albert Hugo,
bonjour.
Daniel.
Bonjour, Nagui.
Et notre invité, Jean-Louis Etienne.
Bravo, Jean-Louis.
Est-ce qu'avec votre livre « Oser l'autonomie », vous sentez que c'est le moment? Vous sentez que en France, l'état d'esprit, la mentalité, les problèmes d'écologie aussi, parce que il n'y a pas que ça dans le livre, mais il y en a un tout petit peu. On est un peu plus prêt qu'il y a peut-être quelques années à devenir autonome.
À la fois prêt et je dirais presque quasi une obligation d'apprendre, parce que donc on a eu effectivement un exposé sur ce qu'est la maison autonome. Et c'est vrai que quand vous traversez la France en avion, on se rend compte que ce n'est que des maisons. Et donc le milieu pavillonnaire, la maison, c'est un laboratoire de mise en œuvre des énergies renouvelables et autres. Donc chacun peut devenir acteur de ça.
Et justement, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que quel que soit le geste, le comportement, et quelle que soit la taille, l'importance de ce geste, ce comportement, chacun doit être...
Oui,
autonome et responsable entre guillemets autour de dans son périmètre quoi.
Si on prend le climat, l'ennemi numéro un du climat, c'est le charbon. Depuis longtemps, c'est le plus gros émetteur de gaz carbonique, c'est l'énergie la plus abondante, c'est la moins chère. Donc il y a une grosse mine de charbon en Australie, énorme. Les Australiens se sont fait taper sur les doigts. On dit non, on ne va pas y toucher parce qu'en plus, il faut couper la barrière de corail pour faire entrer les bateaux pour prendre le charbon. Ils ont confié ça à une société indienne. Donc, il m'est arrivé de faire une conférence il n'y a pas très longtemps devant des investisseurs. Qu'est-ce qu'il faut choisir? J'ai dit, mais si vous voulez être des bons acteurs pour le climat, n'investissez pas sur cette mine de charbon. Et donc, il y a pas mal déjà de banques qui ont décidé de ne pas investir sur cette mine de charbon. Donc, il y en a un qui me dit, mais attendez, c'est 10 000 jobs. Je dis, mais oui, mais 10 000 jobs, mais pour combien de morts? Si vous regardez ce que la mine tue localement, la mine tue par la silicose des mineurs, ce que la mine tue parce que le charbon est aujourd'hui un des gros acteurs du réchauffement climatique, et les personnes qui sont en difficulté aujourd'hui parce qu'il y a des périodes de sécheresse énormes. Ouais. Quand Donald Trump...
C'est le problème du court et du long terme, quoi.
C'est
aussi.
Du problème. Quand Donald Trump trompe tout le monde en disant « Regardez, on se caille à Chicago et on se caille
non,
à New York. »
Il est con,
il est con. Mais non, mais attends, je veux rectifier un truc.
Il y a des trucs intéressants chez lui. Pas...
Non, mais ce qu'il faut rectifier, c'est qu'au même moment de l'autre côté...
Oui.
En Australie, en Afrique du Sud, en Argentine, en Asie du Sud-Est, il y a des sécheresses énormes.
Quel est le premier geste? Parce que là, vous donnez des exemples qui sont justement à l'autre bout du monde. Mais en France, quel serait le premier geste que vous pourriez conseiller? Vous parlez, parce qu'on ne se chauffe plus au charbon, on est...
Il y a quand même 4 centrales au charbon à l'heure actuelle.
En France?
En France. Il en reste 4. Il y en a une à Gardanne, par exemple, entre autres. Naturellement, il faut les fermer. Ce sont des gros émetteurs de CO2. Donc, Des bien-pensants ont dit on va faire une centrale au bois. Mais on s'est rendu compte que pour le faire marcher, il fallait faire venir le bois du Canada.
Mmh. D'accord.
Donc vous voyez, c'est complexe, quoi. Donc quand on aborde la complexité, on dit on ne peut rien faire. Donc revenons sans arrêt aux choses que l'on peut faire à l'échelle individuelle. Il y a un exemple, par exemple, de l'énergie solaire, on en a parlé, l'énergie éolienne. On veut mettre les éoliennes en mer. C'est moins gênant, par exemple, mais c'est absolument impossible. Je parle de la France. Aujourd'hui, vous avez des éoliennes qui sont proposées au large de la Bretagne. Il y a toujours une association qui se crée pour dire que ça va déranger ceci et cela. J'ai le sentiment qu'on ne peut rien faire.
Ça casse le paysage, c'est évident, mais après, il y a des choix à faire aussi.
Il y a des choix à faire aussi. Moi, j'ai 6 éoliennes chez moi à la campagne de mes gars.
Vous avez le droit?
Ah, mais c'est pas moi qui les choisis, elles ont été construites, hein. C'est pas moi qui les ai faites. 6 éoliennes, non. On évoquait tout à l'heure l'autonomie d'une ville, par exemple. À Paris, si vous voulez faire marcher le métro, le RER avec les énergies éoliennes.
On va le faire marcher tout court. Hein.
Déjà.
Mais
déjà.
Il faudrait 800 éoliennes de 2 mégas. Les 2 mégas, c'est celles qu'on a dans les campagnes. Il en faudrait 800 et qui est au moins 20 km/h de vent, en permanence. Donc, voyez la complexité.
Ouais.
Tout de suite, voici Tanguy Pastureau. Partout dans les villes, justement, Tanguy, on voit les trottinettes électriques.
Oui, c'est normal parce que nous sommes de grands gosses. Hein. L'adulte ne vieillit plus, c'est un enfant avec des rides et des poils. À Disneyland, des adultes disent à des enfants qui veulent rentrer « Non, allez, Kevin, on fait encore un tour de petit train de la mine. » L'enfant répond « Papa, j'ai des devoirs, ce soir, il y a école demain. »« Oh, ça va, Kevin, t'es pas fun, t'as même pas fait le Space Mountain. »« Mais papa, j'ai 4 ans et demi, ça va me décalquer la tête. » Quand moi, j'étais petit, dans les films, il y avait Jean-Pierre Marielle, tout velu, avec une voix grave, il tripotait les fesses des dames en disant « Ah mon Dieu, j'ai jamais rien vu d'aussi beau, je vais te les bouffer Monique. » Je me disais « Voilà, c'est un adulte. Moustache, veste en velours, en train de siffler du cidre à Pont-Aven sous la flotte. Mais en 2019, c'est fini. Les adultes portent des baskets, regardent des types parler à des loups dans Game of Thrones. Moi qui suis à l'ancienne, dans Game of Thrones, j'attends les seins. Hein, quand l'héroïne fait tomber la peau d'ours qui lui sert de liquette, je me dis « Yes, là-dessus, il doit y avoir Booba et Frisquette. » Les autres mecs, eux, attendent les loups. Tout est infantilisant. Anne Hidalgo à Paris a claqué 650 000 € dans un cœur géant qui tourne porte de Clignancourt. Le prix de 60 000 repas chauds pour les gens qui crèvent dehors. Mais non, un gros cœur qui coulole à la con, c'est mieux. Le 19 mai à Paris, tiens, il y aura le deuxième printemps des cimetières. Des happenings artistiques, des gonzes qui font du slam à côté de la tombe de Tati Ghislaine. Elle est partie, Tati, comme un bateau dans la nuit. Je reste tout seul comme un con avec ses 4 caisses de napperon. Parce qu'en tant qu'enfant permanent, on refuse la mort. À tel point qu'Amy Winehouse, la chanteuse défoncée au whisky, Xanax, acide, vodka, hein, tout ce qu'elle voyait, elle l'avalait, même le chat de sa mère, elle se les sifflait, va partir en tournée cette année, ou plutôt son hologramme. Hein, c'est comme celui de Mélenchon, mais en moins sanguin. La mort n'existe plus. Et dans le cas d'Amy Winehouse, l'hologramme au moins ne vomit pas sur le premier rang, lui. Bref, nous sommes des grands gosses qui s'épilons le oui-oui afin de ressembler le plus possible à Théo, notre petit neveu de 6 ans. Pas étonnant alors que le moyen de locomotion à la mode, ce soit la trottinette. Mais au rythme où ça va, dans 2 ans, Daniel Morin et moi, on joue à la Marelle. Hein, on le fait déjà, mais en soirée privée, sous le nom des Marelle Naked Brothers. Oh, il faut nous voir sautiller sans slip. C'est pas confortable, mais ça rapporte. Alors, les trottinettes avant, bah, c'était pour les mômes, comme les jeux vidéo ou l'amour porté à Batman. Mais là, des milliers d'adultes sont juchés sur des trottinettes en ville, slalomant entre les bus, devant des pigeons interloqués qui terminent de picorer le moignon gauche d'un mendiant bulgare. Mais moi qui suis adulte, donc chiant, hein, jamais je n'approcherai d'un bus en trottinette. Hein, déjà monté dans un bus me fait peur. Tous ces gens du peuple qui se rendent porte de Saint-Ouen, mais pour moi c'est Koh-Lanta. Mais les utilisateurs de trottinettes n'ont pas peur, eux. Ils n'ont pas conscience de la mort, puisque ce sont des enfants.
Alors, les médecins ont tiré cette semaine la sonnette d'alarme par rapport à ça.
Oui, ils expliquent qu'il y a de plus en plus d'accidents. Les mecs s'encastrent dans des poids lourds, dans des vieilles dames qui traversent, dans des chiens. Enfin, tout ce qui se déplace a de 1 à 12 utilisateurs de trottinettes en lui. Hein. Et des accidents, eh ben, il y en a même sur les trottoirs parce que les gens sont lancés à 30 km/h. Si vous êtes à pied, vous avez la vie du lapin de Garenne en forêt de Fontainebleau qui voit arriver Neymar dans sa nouvelle Ferrari. Hein, il est assis, donc là, au moins, il ne se blesse pas. Et disent les médecins, plus on avance en âge, plus c'est risqué. Là où un accidenté de la trottinette de 30 ans se fracture un doigt, un de 60 se fracture tout le corps et on doit le jeter avec sa trottinette. Or, il n'y a pas de poubelle pour les gens. Jaune, ce sont les papiers. Noir, tout le reste. Mais les humains, bah, il n'y a pas de couleur. C'est là qu'on voit que la société n'a pas eu de s'adapter du tout aux serial killers. Et puis, la presse nous le dit, la trottinette amène de plus en plus de friction entre les pro-trottinettes et les anti. Enfin bon, les gens n'ont pas attendu la trottinette pour se haïr. Hein, du temps de la guerre entre les Hutus et les Tutsis, il n'y avait pas de trottinette. Et jamais Hitler n'a dit « Ah, hier encore, il y a un juif qui m'a couper la route en trottinette, du coup je me suis pris le trottoir alors que j'allais livrer une toile. À cause d'eux, je vais échouer dans l'art. J'ai la rage. » Donc l'être humain, intrinsèquement, est conçu pour détruire ce qui l'entoure. Les gens, les objets, les plantes, la faune. Et cette haine de la trottinette, selon des sociologues, pourrait même venir du fait que pour certains, elle symbolise la Macronie, les start-up, les kits connectés. Le général de Gaulle, c'était la Croix de Lorraine. Bon, bah dans les livres d'histoire, à la page sur Macron, en photo, il y aura Marlène Schiappa avec un et une trottinette. Et sur la chaîne Histoire, en 2070, on invitera un monsieur qui avait 20 ans en 2019 en lui disant « On a voulu vous faire venir parce qu'on ne comprend rien à votre époque. » Alors, seul avantage, la trottinette électrique réduit l'usage des véhicules thermiques. D'après une étude, 59% des clients de Lime, ce sont des trottinettes en libre-service qui finissent dans la Seine là, au bout de 2 semaines, et ben 59% ont renoncé à prendre leur voiture. Donc, bah, nous sommes de grands gosses à trottinette qui attendons le musée du Louvre à l'entrée et installent un toboggan géant qui descend dans la pyramide pour y aller. Mais on pollue moins. Sinon, pour Game of Thrones, je suis très inquiet, j'ai vu le teaser. 17 loups, pas un saint.
Merci, Tanguy Basso. La bande originale. Oser l'autonomie, publié chez Rustica Éditions. Jean-Louis Etienne est notre invité. Cette autonomie, il faut aussi l'avoir par rapport à soi-même, par rapport à son passé. Vous avez fait le tri de vos objets, vous avez...
Sous contrainte. Hein,
ouais,
c'est des pages formidables. Ça.
Ça vous piquait un peu quand même de jeter les livres et les revues.
Oui, j'ai dû le faire. Donc je devais déménager. Effectivement, j'avais un garage plein. Et puis là où j'allais, il n'y avait pas la place. Et donc, je me suis dit, il faut quand même que... Qu'on s'en occupe, quoi. Puis on remet la date. Hein.
Oui. Ouais, et vous dites d'ailleurs, il ne faut pas laisser ça à nos enfants pour notre mort. C'est pas à eux de trier les affaires qu'on a gardées.
Et donc finalement, les choses, elles ne sont qu'une projection, si vous voulez. Quoi. J'avais une collection de National Geographic qui faisait une tonne. Puis je me suis dit, mais j'y vais jamais finalement les voir. Ça fait 10 ans qu'ils sont là.
Et vous dites même maintenant, on peut tout retrouver sur Internet, c'est pas la peine que je les garde.
Voilà, j'avais sur Internet, donc ça y est, ça je m'en débarrasse. Et en fait, je suis allé à la décharge avec tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on le bazar, parce que la décharge, c'est quand même... Hein, et,
c'est le cimetière.
C'est le cimetière,
vous embrassez une bobine de film.
Voilà, j'embrasse une bobine de film.
Du pôle Nord.
Parce qu'en fait, il est numérisé, vous voyez, on n'a plus besoin de la matière. J'ai dit, finalement, c'est que de la matière. Et donc, j'ai fait ce geste-là, et je l'ai jeté, et en rentrant, j'avais fait un travail énorme.
Mais c'est exactement ce que raconte cette japonaise Marie Kondo qui vend qui a fait un bouquin, c'est un best-seller, qui explique qu'un objet dont on ne sert pas déjà, ou d'un vêtement depuis plus de 2-3 ans, ça veut dire que vraisemblablement on ne le remettra pas. Donc soit on le donne, soit on distribue on recycle. Et surtout, quand c'est un objet qui représente, ou en tout cas on a la sensation qu'il représente quelque chose de fort pour soi, et bien on lui dit adieu.
On est à la radio, vous parlez aussi de l'autonomie d'opinion, de l'autonomie de penser, de ne pas avoir cette pensée unique. Chacun doit se faire sa propre idée.
Ben oui, parce qu'aujourd'hui,
on a la chance d'être dans une démocratie, la chance d'avoir un pays formidable.
C'est une chance, ça.
Où on peut voter, mais on ne peut pas être autonome dans ce vote. Il y a un moment où on est obligé soit de voter par défaut, parce qu'on n'a pas d'autre choix, soit d'aller vers le moins pire.
Oui, non, je parle de l'information. L'information politique, c'est la salle d'urgence. Ça me rappelle la salle d'urgence. Il y a une urgence ou deux urgences par jour. Il y en a un qui a dit une phrase de l'autre côté. Ça émeut la nation. Enfin, ça émeut les politiques qui rebondissent sans arrêt. Ils prennent quelque chose, ils rebondissent et on en fait la matinée, on en fait la soirée jusqu'à ce que le pape fasse quelque chose qui ne va pas. Donc, tout d'un coup, toute cette information s'arrête et on passe au pape. C'est ça que je veux dire. Il faut faire le tri et regarder un peu les choses qui se passent sur la durée. Parce que si on n'avait que des bonnes idées, on vivrait dans un état d'apaisement et de tranquillité.
En tout cas, il faut filtrer l'information et éviter d'ailleurs de croire des choses qui nous sont dites.
Ça nous met dans un état d'impuissance.
Sans vérifier, il faut croiser les informations, en tout cas, au moins pour savoir.
Ça nous met dans un état d'impuissance, quoi. Hein, quand toutes ces informations qui nous arrivent, surtout que et vous le savez, quand vous êtes surtout à la radio ou à la télévision, ce sont des voix que l'on connaît, ce sont des images. Voilà. Et donc, vous faites partie de la famille.
Bien sûr, on rentre dans le salon des gens.
Vous rentrez dans le salon des gens.
Donc, on a une responsabilité.
Oui, enfin, une responsabilité. Si, vous nous donnez l'information, vous la donnez. Donc, c'est à chaque citoyen, au moment donné, de hiérarchiser la façon dont il va le prendre,
absolument,
si vous voulez, de s'informer. Il faut s'informer. Et vous avez raison, on est dans un pays où la circulation de l'information est libre. Hein, on voit ce qui se passe quand ce n'est pas libre, c'est absolument fondamental. Et en même temps, on vit dans un pays où on a quand même l'accès à l'éducation gratos et aux soins gratuitement. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, vous avez un accident ou un problème, on vous demande si vous pouvez payer.
Exactement. Ouais.
Donc, on vit dans un pays quand même où les deux mamelles de la construction de l'individu, que sont l'éducation et la santé, sont accessibles gratuitement. Donc, Saint-Gria disait... Il faut s'émerveiller de ce soleil avant d'en réclamer un autre.
C'est accessible. C'est accessible gratuitement parce qu'il y a des impôts qui permettent de financer ça. S'il y a des impôts, ça veut dire qu'on est dans la société, dans le participatif. Et là, on n'est pas dans l'autonomie. On n'est pas là en train de dire je gagne l'argent, je garde cet argent et j'en fais ce que j'en veux pour moi. On est dans le partage ou la redistribution, même si on n'est pas encore au top du partage et de la redistribution. Oui. Il y a encore du travail de ce côté-là.
Il a dit l'autre tout à l'heure, autonome mais solidaire, si vous voulez. Ouais. C'est vrai qu'on est en droit de demander au bout d'un moment. Peut-être vous le demandez aussi quand on atteint une certaine tranche, si vous voulez, on se dit mais ça sert à quoi? Où est-ce que ça va? Donc on a de temps en temps l'inquiétude de se dire est-ce que c'est bien partagé en fait, quoi.
Absolument.
Donc il faut se mêler de la
vie politique. Et ça rejoint le même sentiment sur la surconsommation aussi. À quoi ça sert?
Oui.
Puis c'est la nuance et la différence qu'il y a entre
oui.
être et avoir aussi.
Oui.
Là aussi, c'est la recherche personnelle pour savoir qui l'on est plutôt que de posséder.
On avait une dramaturgie sur les Gilets jaunes qui dure depuis longtemps. En général, une œuvre littéraire, une dramaturgie, il y a 5 actes. Hein, donc il y a le premier qui met la situation, le deuxième qui envenime un peu, et après les solutions.
On est au 20e, mais c'est pas les mêmes acteurs.
C'est un feuilleton. Entre
le premier acte et le 20e, c'est pas les mêmes
non,
acteurs.
Non, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, ceux qui ont initié l'acte 1, l'acte 2, qui portaient des vraies revendications, doivent eux-mêmes, je dirais, gérer l'acte 5, je veux dire la chute. Parce qu'en fait, ils sont envahis par des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'acte 1.
Oui, mais la force de ce mouvement, c'est qu'il n'était pas géré, justement.
Mais ceux qui ont initié le mouvement, à qui vous demandez, peut-être on va clôturer cette dramaturgie qui était intéressante, mais il n'y a personne pour l'écrire. Parce que celui qui dit qu'il l'a provoqué, lui, non, il ne veut pas prendre la responsabilité voilà. de... Et donc, c'est une roue sans fin. C'est l'hamster qui tourne dans un truc qui tourne sans arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me perturbe, alors que tout ça, ça part d'un bon sentiment.
Oser l'autonomie aux éditions Rustica Éditions. C'est un dépôt de bilan, c'est une humeur, c'est un constat.
C'est autonome.
Oui, c'est autonome.
C'est complètement c'est autonome.
Frédéric Siri, c'est autonome.
Alors, souvent sur cette antenne, on ironise sur l'âge de nos auditeurs. Mais honnêtement, je crois qu'on crache un peu dans la soupe.
Oui.
Déjà, parce que c'est les seuls qui viennent nous voir en studio. Ah, parce qu'on va se dire les choses. Si c'est le règne du cheveu blanc...
Ils ont pas de vie.
Non, mais attention. Si c'est le règne du cheveu blanc, souvent dans le public, c'est pas parce qu'il y a un videur à l'entrée qui repousse les jeunes. Hein. Si tu comptes sur les 18-25 ans pour gagner ta vie à la radio, vaut mieux vendre des tacos que bosser ici. Hein. Même nous, on est là en train d'ironiser. Oui, ils sont âgés, mais une chronique de Tanguy sur deux, il te parle de t-shirt Waikiki, d'alerte à Malibu, de Gadget, excuse-moi, je l'adore, hein, mais il y a un moment, il fait son âge. Personne n'arrête Daniel Morin, par exemple, dans la rue en disant « Oh pardon, je vous ai confondu avec Norman, ça n'arrive jamais,
non,
ça.
Rare, ne jamais. »
Même moi, je suis dans une période de transition où je pense toujours avoir 20 ans dans ma tête, mais la tête des autres, c'est très bien que non. C'est d'ailleurs le drame, c'est qu'on ne le sait pas quand on commence à vieillir. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes dans le public qui ont découvert qu'elles étaient vieilles uniquement parce qu'on leur a dit « ici ». Tu vois, à la fin de l'émission, elles étaient « Oh !» C'était ça. Je comprenais pas pourquoi on me payait pour rester chez moi. Et ces cheveux qui migrent de ma tête à mes oreilles. Cette excitation sexuelle quand je vois Samuel Etienne présenter Question pour un champion. C'est ça. Je suis vieux. Et des fois, Daniel, je le vois, il fait de l'œil à une petite serveuse dans la brasserie d'en face. Je vois bien que dans sa tête, lui, il est clairement dans le champ des possibles. Bon, bah, dans la tête de la petite serveuse, en revanche, on est clairement dans le champ du harcèlement. Parce qu'il sait pas qu'il a changé. Et puis, il faut assumer, parce que vieillir, finalement, c'est bien. C'est encore ce qui peut nous arriver de mieux. L'alternative à la vieillesse, c'est quoi? C'est mourir jeune. Mais moi, je préfère gérer ma perte de cheveux que ma perte de vie, hein. On voit encore des retraités faire le tour du monde, s'engager dans des associations, aller au théâtre, faire des expos. James Dean, Kurt Cobain, Amy Winehouse, ils sont morts jeunes, ils ont l'air vachement moins occupés en ce moment. Hein. Le temps, c'est un cambrioleur, vous pouvez noter, hein, le temps, c'est un cambrioleur qui vient chaque jour te voler un truc.
Ouais,
j'étais fier de ça. Tu vas
t'arrêter là? Non, c'est exactement ce que ma femme me dit souvent, me dit, je veux pas t'arrêter là, mais. C'est vrai, tu te rends pas compte, mais un matin, tu réalises qu'il te manque du souffle, de la libido, tu retournes les tiroirs, tu te dis, mais je l'ai mis où? Si t'es un homme, souvent, tu demandes à ta femme, t'as pas vu ma jeunesse? Parce que je la cherche partout, je la trouve plus, tu l'aurais pas prêtée à quelqu'un. Et puis, pas la peine d'aller chez les flics pour porter plainte, hein. La jeunesse, c'est comme les vélos, et dire, oh bah, vous savez, bon, on va prendre votre dépôt. Position, mais il y a peu de chances qu'on la retrouve. Hein. Et c'est sûr que maintenant que je vois ma petite fille de 5 ans cavaler dans toute la baraque de 7h à 20h sans être jamais fatiguée, j'ai une petite idée de la coupable, hein, quand même. Je sais qu'il a volé ma jeunesse. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est tous destinés à vieillir, a priori, très égoïstement, on devrait prendre soin de nos seniors, les traiter comme on aimerait qu'on nous traite. Les vieux ou la vieille, ça devrait être considéré comme un trésor national. En gros, un vieux, ça devrait être traité comme un chat. Voilà, il est à la maison, il fait ce qu'il veut, il mange quand il en a envie, de l'affection, c'est s'il veut, et voilà. Sur Internet, c'est pas des vidéos de chatons qu'on devrait se partager, mais des vidéos de vieux. Des vieux qui font leur toilette, qui se vautrent quand ils essaient de sauter du fauteuil au canapé. Oh, kawaii, desne, voilà. On devrait célébrer les vieux. Au lieu de ça, qu'est-ce qui les attend? Un EHPAD? C'est tout ce qu'on a à leur proposer? L'EHPAD, cette crèche pour vieux où tes parents ils viendront jamais te chercher. Alors bien sûr, faut pas généraliser, il y a des EHPAD très bien. Et puis surtout, les gens ils font comme ils peuvent. Hein. À 50 ans, tes gosses ils sont pas encore partis de chez toi, c'est difficile de récupérer tes parents. En plus, pour la déco de la chambre, ça va être un de ces bordels. Il y en a un qui va vouloir mettre des posters d'Eddie Mitchell, l'autre d'Eddie de Préto. Les lits superposés, bah forcément papy il veut pas dormir en haut. En plus, la tuyauterie elle est ratée, en bas on risque des dégâts des eaux. C'est compliqué tout ça. Et surtout dans une société où on allonge toujours l'espérance de vie, mais où le marché du travail te considère comme vieux à 55 ans. Ça risque de faire long l'EHPAD, et cher. Et finalement, le problème des EHPAD, c'est qu'on peut se demander si le retraité le plus choyé, finalement, c'est pas le pensionnaire, mais l'actionnaire.
Merci, Frédéric.
Avec Nagui. Et ce soir, Frédéric Sigrist est à Noisy-le-Sec, et le 10 avril, tu seras à la salle Nougaro à Toulouse.
C'est cela. Osez l'autonomie, Jean-Louis Etienne, vous le signez chez Rustica Édition et on encourage tout le monde à lire ce livre qui se lit extrêmement facilement et donne à réfléchir sur sa propre vie et ses propres motivations. D'autant que ce livre...
Oui, est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées pour le papier, donc voilà, jusqu'au bout.
Rustica, le jardinage, attention à la nature. Et parlons donc du projet PolarPod, parce qu'il vous tient à cœur ce projet. Depuis combien de temps d'ailleurs vous le portez à bout de bras?
Depuis 8 ans.
8 ans. Et là maintenant vous avez le feu vert?
Imminent. Le feu vert est imminent. En fait c'est un navire vertical, c'est un grand tube.
Pour explorer les océans.
Qui va dériver autour de l'Antarctique, là c'est le continent du pôle sud, pour étudier l'océan que les marins appellent les 50e hurlants, qui sont des zones très ventées. Et ce bateau permet d'accueillir des chercheurs dans des bonnes conditions de sécurité, de confort.
Il manque quoi pour le go?
Trois choses. D'abord que ce navire supporte les 50e hurlants, parce que c'est des zones ventées, etc. Donc on a fait des maquettes, on a fait des essais, etc. Techniquement, c'est bon.
Ça tient.
Deuxièmement, l'intérêt scientifique, donc l'équipe, il y a 12 pays, 52 institutions, c'est l'IFREMER qui met d'ouvrage, en fait qu'en France, le CNRS, le CNES, l'INSTA, tout ça c'est un gros paquet scientifique qui marche. Et troisièmement, les ronds. Le financement de l'exploitation qui m'incombe, si vous voulez. Et là, j'ai presque atteint le seuil des choses qu'il me fallait. Quoi.
Et c'est combien de temps, l'expédition?
Ça va durer 2 ans, c'est entraîné par le courant. Bah,
fin 2021, partir comme ça pendant 2 ans, c'est pas mal, parce que en même temps, vous risquez d'avoir Marine Le Pen qui va prendre le pouvoir. Restez bien dans votre capsule.
C'est le positif du jour.
Jean-Étienne, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur?
Écoutez, j'ai 72 ans. C'est marrant, j'avais lu une phrase de Mitterrand, mais ça nous touche tous, c'est-à-dire que la tête reste à un âge de jeunesse.
Ouais. La vôtre peut-être. Mais...
c'est le corps qui fait défaut à un moment.
Oui, c'est le corps qui fait défaut, mais on est dans une obsolescence programmée. Je crois que c'est ça qu'il faut accepter, c'est que ce qui nous vend, si vous voulez, de la vie éternelle, ça n'existe pas. Quoi, hein.
Vous avez peur quoi, d'être limité physiquement, de ne plus pouvoir cavaler comme vous voulez?
Oui, peut-être vous avez raison. Et l'écriture, en fait, je me suis mis à l'écriture depuis une dizaine d'années, donc dyslexique, dysorthographique, je n'avais jamais pensé que je pouvais écrire 3 lignes, vous voyez. Le mot qui va bien, qui résonne bien, c'est une vraie exploration de l'écriture et j'aime ça.
Et vous les trouvez ces mots juste dans Oser l'autonomie, publié chez Rustica Édition, signé Jean-Louis Etienne. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, désolé déjà pour vous, Nagui, qui avez découvert ce matin qu'on pouvait avoir le contrôle de ses extrémités. il serait temps après 14 enfants. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont été étonnés, voire choqués, par le fait qu'on reçoive ce matin avec Jean-Louis Etienne et notre éco-citoyen Patrick Barnett, 2 mecs bien. Alors, je vous rassure, on reprend nos bonnes habitudes dès lundi, puisqu'on parlera défiscalisation et drogue dure avec Camille et José Dayan. Et désolé pour nos auditeurs honnêtes et donc français de souche.
Lundi, on a Anne Fontaine, Lou Delage et Jonathan Cohen.
Il paraît qu'ils sont pires encore que ça. Ouais. Et donc, les Français de souche qui ont encore assisté lors de l'interro à un acte de favoritisme, voire de tricherie de nos sarrasins locaux, avec cette fameuse règle, si c'est ex aequo, le point c'est pour Lille. Alors, si c'est comme ça, la France 2019, je redeviens allemand, auf Wiedersehen les collabos.
Ça s'appelle l'élégance.
L'élégance?
La famille aussi.
La famille.
Ouais. Exactement. Merci Jean-Louis-Étienne d'être venu.
Merci de votre accueil.
Merci. On se retrouvera donc lundi avec Lou Delage. Lou Delage. Jonathan Cohen et Anne Fontaine, la réalisatrice de Blanche comme neige. Pour l'instant, son incarné campagne de Philippe Bertrand. Bon week-end. Et dimanche, à 17h, Bonne Femme avec Denis Morin.
Anne-Marie Vin et la chanteuse formidable Corinne.
Très bien. Bon week-end. À lundi.